Silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre deux Mers 98.4 FM www.re2m.org. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi?
Oui, ça va. Moi, dès qu'on retrouve nos auditeurs, moi je suis trop contente, je sais que toi c'est pareil. Oh bah oui. Ah oui, 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 c'est vraiment un bonheur de vous retrouver, mes petits chéris, là, justement. Et qu'est-ce que tu veux alors aujourd'hui, finalement?
Eh bien, donc, tu viens nous présenter les films qui sortent au cinéma. Et pour débuter, nous allons retrouver Nils Tavernier.
Oui,
et
oui, oui.
Avec un film qui s'appelle Ima. Alors,
Ima.
Est-ce que Nils Tavernier, c'est le fils de...
Ah! Alors, celui qui trouve à gagner des fraises, eh bien, c'est moi qui vais trouver. C'est le fils de Bertrand Tavernier, ce très, très grand réalisateur. Oh, il est décédé, malheureusement, en mars 2021. Il avait 79 ans, 14 prix, 92 nominations. Et puis, ben, je pense que son fils suit ses traces parce que c'est un... excellent. Nils Tavernier est un excellent réalisateur, scénariste, il est acteur également. Il a 56 ans, il est français. Il a 44 ans de carrière et 44 tournages à son actif. Monsieur Nils Tavernier, voilà. C'est ça que tu voulais savoir? Eh bien oui, c'est son fils. Eh oui. Voilà. Alors Irma, c'est une comédie romancée. Comédie française qui dure 1h30. Alors, Nils Tavernier, j'ai quand même noté qu'en 2014, il a réalisé un film qui a très très bien marché, qui s'appelle De toutes nos forces, avec Jacques Gamblin et Alexandra Lamy. On en avait peut-être parlé, je ne sais pas. Je ne crois pas à cette époque-là, je ne pense pas. Hein. 2014, je ne pense pas. C'était l'histoire d'un adolescent qui est en fauteuil roulant et qui est donc il va concourir avec son père au triathlon Ironman de Nice, qui est une épreuve sportive très très difficile. Il a eu vraiment du succès. Il repasse régulièrement à la télévision, mes chéris, si vous surveillez De toutes nos forces, au moins une fois par an. Il a eu un prix et 3 nominations parce que c'est un très, très, très beau film. Magnifique, évidemment, avec des acteurs et des actrices tout à fait au top. Voilà, celui-là, on peut l'avoir dans sa vidéothèque, il n'y a pas de problème. Alors, Ima, on retourne à Ima. Alors, tu veux, bah,
oui,
Damien,
oui.
Qu'on retourne?
Autant présenter le film qui sort.
N'est-ce pas? Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Dadju qui se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour y donner un concert dans quelques jours. Laetitia, une de ses grandes fans, rêve d'y assister, mais le concert affiche complet. Elle supplie alors son père de jouer des connexions de son patron, Yavan, un puissant et riche homme d'affaires, pour lui trouver des places. Celui-ci convainc Dadju de se produire pour un concert privé dans sa propriété, espérant ainsi séduire la sœur de Laetitia. Oula, l'envoûtante Ima! Eh bien, voici Ima. Mais pendant le concert, le coup de foudre est immédiat pour Dadju, qui ne quitte plus Ima des yeux. Jolie histoire d'amour quand même, et de musique d'ailleurs. Mais Dadju, on le connaît, c'est un acteur franco-congolais. Mais on le connaît, hein, on le connaît en France absolument. Bah, de toute façon, il vit en France et il se produit un peu partout, mais en France également. Voilà, il est très doué. On a Karidja Touré dans les rôles principaux. On a Jimo. Alors Jimo, je ne sais pas si tu le connais, Damien, c'est un humoriste.
Jimo, oui, on le connaît bien, il est surnommé la Tortue.
On le connaît, hein, Jimo. Ouais. Il est très drôle dans ses sketchs. Là, il est très, très bien aussi dans ce film. Tout à fait, il a beaucoup de talent. On a Nick Mukoko, on a Anzor Alem, Alem. On a Joss Stinson aussi dans les rôles principaux. Voilà, qui sont. Oh, la plupart, on les connaît quand même, hein, si on a l'habitude d'aller soit à des concerts, soit au cinéma. On les reconnaît. Bon, Dadju, lui, il a 30 ans. C'est un auteur, compositeur, interprète, justement, hein, franco-congolais. C'est un rappeur français, effectivement. Alors là, en ce moment, il est plutôt sur Marrakech. Il s'y est installé parce qu'il se produit beaucoup là-bas. Et il compte d'ailleurs suivre les traces de son frère aîné. Et tu sais qui est son frère aîné, à Dadju?
Eh non.
C'est Gims.
Ah oui, ben voilà.
Le chanteur rappeur. Eh ben oui. Eh oui, quelle famille. Et son père, Juna Jamana, était le chanteur du groupe Viva la Musica de Papa Wemba. Donc c'est une famille de musiciens, d'artistes, voilà. Tous ont beaucoup de talent. Ima, c'est un joli film. Moi, je voulais absolument en parler parce que c'est un film qui fait du bien, qui détend, qui est très, très agréable. Et Nils Tavernier sait très bien ce qu'il fait et il a toujours des castings tout à fait sympathiques, Nils Tavernier. Donc, celui-là, je ne voulais pas le rater. Belle histoire d'amour quand même.
Et ça s'appelle Ima de Nils Tavernier. Et maintenant, nous allons retrouver Tom, notre prénom, notre trois lettres. Tom, et c'est réalisé par Fabienne Berthaud.
Eh oui, alors Tom, ça dure 1h27, c'est un drame français de Fabienne Berthaud, réalisatrice, scénariste, actrice. Elle est écrivaine également. Elle est française, elle a 56 ans. Elle a déjà eu 2 prix et 12 nominations, dont un prix et 9 nominations pour Pieds nus sur les limaces, le titre du film avec Diane Kruger. Et il y avait Ludivine Sagnier aussi, qui a été un gros, gros, gros succès en 2010. Deux sœurs qui se révèlent l'une à l'autre à la mort de leur mère. Voilà, c'était une très jolie histoire. Et puis, donc, il y avait eu ce prix, ce grand prix. Et en 2019, on lui doit Un monde plus grand. Mais on en avait parlé à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers de Un monde plus grand, avec Cécile de France et Ludivine Sagnier également, qui est une actrice un petit peu fétiche pour Fabienne Berthaud. C'est un très beau film sur le chamanisme mongol. Une histoire vraie qui est tirée de la vie de Corinne Sombrin. Elle, c'est une écrivaine musicienne française spécialiste du chamanisme mongol. C'est une écrivaine, en fait, voyageuse. Donc, le film était tiré de sa vie. Et très, très beau film, Un monde plus grand. Très, très. Alors, Tom, c'est l'adaptation du roman. Attention, le titre, Tom, petit Tom, tout petit Tom, Tom de Barbara Constantine. C'est un livre que vous pouvez trouver facilement, il n'y a pas de souci. Je redis le titre, Tom, virgule, petit Tom, tout petit Tom, H-O-2-M-E, hein, tout petit Tom, Tom de Barbara Constantine, sacré titre. Alors Tom, il a 11 ans, il vit avec sa mère, Joss, dans un mobilhome en lisière de forêt. Lorsqu'il n'est pas à l'école, Tom est le petit Tom de sa mère et il prend soin d'elle, autant qu'elle de lui. Alors, il y a l'arrivée de Samy, un jeune homme inquiétant qui va bouleverser leur fragile équilibre. Alors, l'acteur, actuellement, il a 13 ans maintenant, hein, puisqu'il avait 11 ans pour le tournage, Tanguy Mercier. On a Joss. Alors, Joss, c'est Nadia Tereskiewicz. C'est une actrice française. On a Félix Marito qui joue le rôle de Samy. On le connaît, lui. On le reconnaît en tout cas quand on le voit. On a Claudine ACS aussi dans les rôles principaux. Alors, en fait, l'histoire est racontée par le prisme de l'enfance. Voilà, c'est le monde de l'enfance. C'est ce que nous dit la réalisatrice. Hein. Elle dit que le monde de l'enfance est un trésor oublié dont je veux sans cesse me souvenir. C'est un monde de sensations sans a priori, sans jugement, sans conditionnement. Il est libre. La relation mère-fils est un thème qui m'est cher, dit-elle, et qui m'a longtemps hantée, possédée. Alors le film est un conte moderne, voilà, dont Tom est le fil rouge. Il trouve le réconfort dans la nature qui le couvre et le protège. Il est entouré d'animaux. C'est une chronique sociale d'ailleurs, ce film, de personnages que la vie n'a pas épargnés. Mais il n'y a aucun misérabilisme dans cette histoire, absolument pas. Les situations les plus dures peuvent révéler des torrents de bonté et de beauté d'âme. Alors le film a été entièrement tourné dans la baie de Somme, dans des décors naturels. Ça, c'était important pour Fabienne Berthaud, que ce soit naturel. Alors, de le casting, Tanguy Mercier est le quatrième enfant rencontré par la réalisatrice. Je suis désolée, j'ai été perturbée, là.
Il y a le téléphone derrière toi. Donc, tu disais que Sandrine Astier... Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Sandrine Astier?
Oui, alors donc, Tanguy Mercier, donc, elle a rencontré quatre enfants, c'est le quatrième. Elle dit, son regard m'a accroché, ses yeux si bleus, sa peau pâle. Il avait 10 ans, l'air sérieux et le caractère timide. C'était Tom, une évidence. Voilà ce que nous dit Fabienne Berthaud. Voilà, c'est quand même, c'est joli ce qu'elle dit sur lui, finalement. Très, très joli.
Tout à fait.
Tanguy Mercier, on se souviendra de lui, il est excellent, absolument, il est adorable, il est très mignon, très beau physiquement. Je pense qu'il commence une carrière, on s'en souviendra, on le reverra probablement avec ce talent. Ça dure 1h27, je ne sais pas si je l'avais dit, si je crois. Tom, je trouvais que c'était très joli, une belle histoire.
Donc Tom, ça sort aujourd'hui. Et maintenant, oui, on va retrouver The Duke de Roger Michell. Alors, The Duke.
The Duke.
C'est quoi cette histoire?
Ben oui, ça c'est une histoire très curieuse. C'est un biopic, c'est une comédie, il y a aussi du drame un peu. Ça dure 1h35, ça vient du Royaume-Uni. Parce que Roger Michell est un réalisateur, scénariste, producteur britannico-sud-africain. Mais était, parce qu'il est décédé en 2021. Il avait 65 ans. Donc juste après, en fait, le tournage. Il avait 28 ans de carrière, 17 tournages à son actif, 12 nominations. Voilà. Pour mémoire, on lui doit en 2011 Morning Glory, qui était avec Diane Keaton et Harrison Ford. 7 nominations, dont 6 à l'Alpe d'Huez, et il a très très bien marché, Morning Glory. Et en 2014, on lui doit Un week-end à Paris avec Lindsay Duncan et Jeff Goldblum. C'était très beau film également, un prix 4 nominations. Il a bien fonctionné. Et là, c'est The Duke. Alors, c'est d'après. J'ai noté d'ailleurs que c'était d'après une invraisemblable histoire vraie. En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du duc de Wellington, peint par Goya. Quand même. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu'à condition, attention, on écoute bien mes chéris, qu'à condition que le gouvernement rende l'accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Est-ce que tu as bien saisi l'histoire, Damien, pour l'instant?
Tout à fait, oui.
Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s'est vu recherché par toutes les polices de Grande-Bretagne, accomplissant le premier et unique vol dans l'histoire du musée. C'est un truc, une histoire extraordinaire. Alors les acteurs, là, moi c'est mon petit coup de cœur quand même, parce que les acteurs sont extraordinaires également comme histoire. Jim, le rôle principal de Kempton Bunton, ce petit voleur, c'est Jim Brownbent, qui est extraordinaire dans le film, là, mais vraiment extraordinaire. Il y a Hélène Mirren. On n'a plus besoin de dire de beaucoup de choses sur elle. Elle est formidable, Hélène Mirren. On la connaît absolument. Ça, c'est sûr. Si on a oublié son nom, dès qu'on la voit, on le sait. On la connaît. On a Aimée Kelly. On a Flon Whitehead dans les rôles principaux. c'est vraiment extraordinaire. Alors, le Royaume-Uni, en fait, c'est un film qui est voilà, du Royaume-Uni. On se souvient, hein, le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, c'est l'Écosse, c'est le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Donc, tout le monde s'y est mis. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Alors, c'est titré, quand même, l'histoire vraie d'un Robin des Bois des temps modernes, une comédie anglaise irrésistible, charmant, vibrant, émouvant. Jim Broadbent est stupéfiant. Hélène Mirren est merveilleuse. The Duke va vous faire fondre. Une comédie dramatique qui fait du bien. Voilà, voilà, The Duke. Ah oui, là, vraiment, si vous avez un petit peu de spleen en ce moment, là, hein, si vous êtes un petit peu, bon, on ne sait pas, un petit peu tristouné, alors on ne peut pas savoir. Eh bien, The Duke, franchement, ça vous fera le plus grand bien, vraiment.
The Duke de Roger Mitchell.
Ouais, ouais.
Et maintenant, ouais, ouais. Nous allons retrouver François Usan, qui sort en oui. Souris pour la photo. Alors, ce n'est pas François Ozon, c'est François Usan. Et le film s'appelle « En souris pour la photo ». Alors, peux-tu nous présenter ce film, s'il te plaît ?
Tu fais bien de dire que c'est bien, ouais, que c'est François Usan et non pas Ozon, parce qu'effectivement, étant donné qu'ils ont le même nombre de lettres dans leur nom, ça pourrait, on pourrait se tromper. Donc, c'est une comédie. Française, qui dure 1h35, qui a un prix et 3 nominations au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, spécial, enfin, c'est le prix spécial du jury qui est un très très beau prix, 2022. Et d'ailleurs, ce festival était présidé par Michel Larocque, entre autres. Voilà, donc ça s'est bien passé pour François Usan, réalisateur, scénariste, créateur français. Il a 43 ans, il a 13 ans de carrière, 14 tournages comme scénariste, parce que on sourit pour la photo est son premier long métrage. Sinon, il était scénariste, 14 tournages comme scénariste. Alors, en 2009, il avait réalisé un documentaire qui a été récompensé également. Ça commençait très bien pour lui. En 2017, un court métrage de 15 minutes, pochette surprise, qui a très très bien marché, qui a été primé. Il y avait Julia Piaton dedans, Patrick Braoudet, et très très bien reçu. Ce qui l'a dirigé vers le premier long métrage, effectivement. Parce que quand tes courts métrages sont bien reçus, souvent le réalisateur a beaucoup moins de mal pour trouver un producteur pour un premier long métrage. Ça l'amène directement à ça, quoi. C'est-à-dire que on lui fait confiance. Voilà. C'est pour ça que je dis que ça amène souvent au premier long métrage quand les courts métrages ou les documentaires ont bien fonctionné. Donc là, c'est l'histoire de Thierry qui passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu'elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire Grèce 98, c'était leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer leur séparation. Mais, officieusement, il espère reconquérir sa femme. En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille. Carrément, et c'est Jacques Gamblin qui s'y colle, qui est Thierry. Ah, on adore Jacques Gamblin. Il a un talent fou, il est agréable. Enfin voilà, on adore ce gars-là, il n'y a pas de doute. Et puis alors, Claire, c'est Pascal Arbillot. C'est pareil, on la voit dans un tas de films. On n'a peut-être pas toujours, on se souvient peut-être pas toujours de son nom, mais on la connaît absolument. Elle est ravissante, elle a un talent fou aussi. Là, vraiment, alors on a Pablo Poli, on a Agnès Hurstel. C'est la famille Hamelin, en fait, parce qu'ils sont tous de la famille. Là, hein. Antoine et Karine sont les enfants de Thierry et Claire. Voilà, c'est la famille Hamelin. Et c'est un joli, joli, joli casting. Alors, pour François Usan, c'est un film sur les fantômes du passé. Mais ce sont de gentils fantômes, dit-il, avec lesquels on cohabite et qui nous accompagnent et qu'il faut un jour abandonner. Cela crée au final une comédie nostalgique, voire mélancolique. J'ai lu un jour, dit-il, qu'être mélancolique, c'est pleurer des jolies choses. Avec ce matériau de base, j'ai voulu écrire une vraie comédie. Le film a été tourné durant l'été 2020, pendant 5 semaines. Il était au sud d'Athènes et puis une semaine sur l'île d'Égine. Voilà, des jolis coins quand même. À 4h du matin, dit-il, nous étions au pied de l'Acropole, au temple d'Aphaï ou sur des plages sublimes. Ouais, joli tournage. On sourit pour la photo. C'est un joli titre aussi. N'est-ce pas? Est-ce qu'on sourit, Damien? Tu souris, tu vas être photographié.
Ah oui, je souris, tout le temps.
Moi, ça y est, clic-clac, la photo est prise. Ensuite, que veux-tu ensuite?
Alors ensuite, ça va être Juan Pablo Félix II du nom qui nous propose le film Carnaval.
Oui, Carnaval. Ben, c'est un drame qui dure 1h37. Oui, Juan Pablo Félix II, tu l'as dit, oui, entre parenthèses, 2. Il y a eu le premier, là c'est le deuxième. Réalisateur, scénariste argentin, c'est son premier long métrage. Il a 40 ans et il a réalisé lui aussi des documentaires, des séries des séries télévisées, des courts-métrages, des publicités. Bref, il s'est fait remarquer d'une bonne manière, bien sûr. Et du coup, il lance son premier long-métrage. Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l'Argentine et la Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour la compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son père, El Corto, ancien détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril. Et il y a des retours paternels qui ne sont pas toujours sympathiques. Alors, dans les rôles, le rôle principal, c'est Martin López Lachi. Alors, lui, c'est un champion national de Malambo, cet acteur. Il a été pris pour ça, d'ailleurs, là. On a Alfredo Castro, on a Monica Lerana, on a Diego Cremonetti. Alors, en fait, le film, c'est un drame familial. Hein. On trouve le road movie, le western, le passage à l'âge adulte, le thriller ou encore le drame familial. On a tout ça dans ce film. Alors, le Malambo, quand même, on va dire deux mots. Est-ce que tu sais ce que c'est, toi, Damien, le Malambo? Moi, je savais
non,
pas.
Non, je ne sais pas du tout ce que c'est.
Voilà, le Malambo, ben, c'est la deuxième danse nationale en Argentine après le tango.
D'accord.
Alors, il faut jouer de la musique avec les pieds, par les claquements des pointes et des talons, et qui rappellent les sabots des chevaux. C'est un peu le même bruit. Alors, les danseurs portent un pantalon bouffant et des bottes. Le film est présenté, d'ailleurs, il a été présenté au Festival international du film de Toronto 2020, ça a très bien marché pour lui. Voilà ce que c'est le Malambo, et les danseurs de Malambo, c'est pas n'importe quoi. Absolument pas, hein. C'est très important là-bas en Argentine. Et les concours sont très, très difficiles. Alors évidemment, un père qui sort de prison, qui arrive là-dedans, aïe, 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 il faut aller voir le film pour voir ce qui se passe, hein, ce qui se passe exactement pour ce jeune danseur, Cabra. Carnaval.
Carnaval, donc. Et oui, maintenant, carnaval. On retrouve Jean-Pierre Améris pour Les Folies Fermières. Oui. Alors là, c'est une comédie française que tu nous proposes.
Ah bah oui, comédie-drame aussi un petit peu quand même, il y a les deux, oui, française. Et c'est Jean-Pierre Améris, oui, tu as raison, réalisateur, scénariste, adaptateur français, il a 60 ans. Il a 27 ans de carrière et 18 tournages à son actif, 4 prix, 24 nominations. Allez, on rappelle, oh oui, on rappelle 2-3 films qui sont magnifiques. En 2010, par exemple, c'était Les Émotifs Anonymes. Qui est souvent repassé d'ailleurs à la télévision.
Avec Benoît Poulvord et Isabelle Carré.
Oui, formidable, un film. Ah oui. Moi, je ne vous cache pas que j'ai acheté le DVD quand même dès que j'ai pu. Pas cher du tout, je l'ai trouvé facilement. Et je me le regarde de temps en temps. Meilleur film étranger en coprod, il a eu un prix quand même, hein, coproduction. En 2012, on a L'Homme qui rit aussi, avec Marc-André Grondin et Gérard Depardieu, un prix 11 nominations. C'était le prix. Ah oui, le prix Claude Chabrol au Festival du film du Croisic en 2012. L'homme qui rit, très très beau film également. À 2014, ah oui, j'avais sauté 2014, on a Marie Hurtin, le film Marie Hurtin inspiré de faits réels avec Isabelle Carré, encore, et oui, et Ariana Rivoire. C'est, ça se passe au 19e siècle, c'est l'histoire d'une jeune fille sourde et aveugle qui est sortie de sa nuit, elle est sortie de sa nuit par une jeune religieuse. Il y a eu un prix à Locarno, Marie Hurtin, très très beau film également. Et là, on a Les Folies Fermières. C'est d'après une fabuleuse histoire vraie. Et oui, David, jeune paysan du Cantal, vient d'avoir une idée. Pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l'assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher. Les bons produits du coin, bah oui, c'est ça surtout qui peut attirer. Et ensuite, le spectacle. Alors, ses proches, évidemment, sa mère et surtout son grand-père, bah, ils sont un peu plus sceptiques quand même. Hein. Ils savent pas trop. Eh ben, il s'est lancé quand même. C'est une histoire vraie, il existe vraiment, cet homme-là. Alors, il est joué par Alban Ivanov. Bah, on le connaît, Alban Ivanov, quand même. Maintenant, on le connaît absolument. Tu vois qui c'est, toi, Damien, Alban Ivanov ?
On voit tout à fait qui c'est. Dernièrement, bah, on en a parlé dans l'émission, dans Le Médecin Imaginaire.
Voilà, tout à fait. Et en plus, il a quand même un one-man show aussi, hein, Alban Ivanov. Il fait un peu tout, il sait tout faire, cet homme-là. On a Sabrina Ouazani, on la connaît aussi. Très talentueuse. Michel Bernier, on la connaît, Bérangère Krief. Il y a Guy Marchand, il y a Moussa Mascri, ben, on les connaît tous, hein. On les reconnaît de toute façon dès qu'on les voit. Alors, en fait, je disais, oui, c'est une histoire vraie, et le réalisateur a découvert justement cet endroit en 2018, en janvier d'ailleurs. Il s'agissait d'un reportage, voilà, qui passait aux actualités régionales et qui était consacré à David Comet, qui est le nom du vrai propriétaire là. David Comet, c'est un agriculteur. Il est tarnais, donc il a 39 ans. Il a repris la ferme de ses parents en 2017 et il a rapidement créé une boucherie, une ferme auberge et un cabaret. Voilà. Et donc il avait vu le réalisateur avait vu donc ce reportage et ça l'a intéressé. Il est allé le voir. Jean-Pierre Emerys, et avec sa production, voilà, ben, la productrice aussi d'ailleurs, Sophie Réville, ils sont allés dans le Tarn rencontrer David. Le réalisateur a été rapidement touché par David Comet et sa façon de faire face à la situation difficile de son exploitation, par une idée aussi fantaisiste que celle de la création d'un cabaret. Voilà. Alors, le film a été tourné en Auvergne, dans le Cantal, et tous ces paysages sauvages sont magnifiques, hein. Absolument magnifiques dans le film. Les Folies Fermières. Est-ce que ça donnera envie à nos auditeurs qui verront le film d'aller là-bas, pendant leurs vacances, par exemple, d'aller dans le Tarn, voir un peu cette ferme, ce cabaret, et manger des bons produits du coin? Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que ça peut donner envie?
Ben oui, ça peut inspirer. Et puis mais au moins, ça montre quelque chose de différent.
Mais oui, mais dans le film, pour le film Le Bonheur est dans le Pré, il paraît que les vacances suivantes, les gens se sont tous rués là-bas, dans le coin où il y avait, je ne sais plus comment ça s'appelle, où il y avait les oies.
C'était dans le Gers.
Voilà, le foie gras et tout. Il paraît que, voilà, qu'il y a eu une pluie de touristes là qui est tombée l'été suivant. Ça fera peut-être pareil pour les Folies Fermières. J'espère en tout cas. J'espère bien. Les Folies Fermières.
Les Folies Fermières. Et maintenant avec Mona HH qui nous propose Cœur Vaillant, nous allons présenter ce film.
Eh oui.
Cœur Vaillant au pluriel.
Absolument, très bien de le dire. Mais enfin, il y avait, je sais plus, je me souvenais d'un truc, à cœur vaillant, rien d'impossible, hein, c'est ça? Ah, mais je me demande si on va pas en parler. Alors, c'est un drame historique, c'est belge, c'est français, ça dure 1h25, et c'est Mona HH, qui est la réalisatrice scénariste française qui a réalisé ce film. Elle est actrice également. Elle a 41 ans, elle a 13 ans de carrière et 13 tournages à son actif. Elle a, comme actrice surtout, hein, elle a un prix et 6 nominations. Elle avait le prix du public et 2 nominations pour le film sorti en 2009 qui s'appelle Le Hérisson. Il y avait Josiane Balasco, Garance Le Guéillermec, et c'était l'histoire de deux solitudes, une rencontre inattendue, et c'est, je l'ai souligné, très 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 beau, Le Hérisson. C'est pareil, il faut l'avoir dans sa vidéothèque, franchement. Ah oui, c'est une Josiane Balasco qu'on connaît beaucoup moins dans ce film, justement. C'est encore une autre facette de son talent, et avec une petite là, Garance Le Guillermic, qui était formidable. Et puis en fait, elle a réalisé également Les Gazelles. C'est un film qui a eu un prix au Festival de comédie de l'Alpe d'Huez en 2014. Il y avait Camille Chamou et Audrey Fleurot dans ce film. C'était le célibat, l'indépendance, peut-il aboutir au bonheur? La question qui se posait dans Les Gazelles. Très, très chouette aussi. Voilà. Alors là, Cœur Vaillant au pluriel, comme tu l'as dit, retrace l'odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher. c'est-à-dire dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d'art cachées du Louvre. À cœur vaillant, rien d'impossible, je savais qu'on allait en reparler pour le synopsis de ce film, cette phrase que tout le monde connaît. Alors, en fait, à l'origine, le proverbe « à cœur vaillant, rien d'impossible », c'était la devise de Jacques Cœur. Jacques Cœur, c'était un marchand, un négociant, un banquier, armateur, 1395-1458, et qui fut notamment l'argentier de Charles VII en 1439, c'est-à-dire ministre des Finances, hein, un grand argentier. Et ben, ce proverbe était de lui, de cet homme-là, donc ça date d'il y a très très longtemps quand même, hein, à cœur vaillant, rien d'impossible. On a Camille Cotin, ouais, qui joue le rôle quand elle est adulte, quand l'enfant est adulte, parce qu'on parle de 6 enfants là. On a dans les enfants, on a Maé, Roudet-Rubens, on a Léo Riel, on a Asia Suissa Fuller, on a Liliane Rose Gilberti, on a Lucas Agege. Ce sont les enfants, il y en a 7 exactement d'ailleurs. On a Ferdinand Redoulou. Et ensuite, dans les adultes, on a Swann Harlow. On l'aime beaucoup, Swann Harlow. Beaucoup de talent. Bah, tous là. Patrick Dassoum-Sao aussi, beaucoup de talent. Anne-Lise Hamburger aussi. Frank Beckman. C'est un très, très joli casting pour ce film. Tout à fait. C'est vraiment un joli film. Alors, la grand-mère de la réalisatrice Mona Achache a été une enfant cachée pendant la guerre. Alors, son récit des événements à sa petite fille a beaucoup touché cette réalisatrice, qui a été marquée, qui a été fascinée par l'association de sentiments contraires provenant des souvenirs d'enfants de cette grand-mère. Parce que d'un côté, la grand-mère lui disait la douleur de la perte de ses proches, la terreur de la guerre, et de l'autre, elle parlait de son insouciance d'enfant, son sentiment d'aventure et de liberté précoce pendant justement son périple. Donc il y a des sentiments contraires comme ça, assez extraordinaires quand même. Dieu merci, les enfants, même quand ils sont dans des situations épouvantables, peuvent quand même, garder ce côté insouciant qu'on a quand on est enfant, voilà, avec ce sentiment d'aventure. Alors le film a été tourné dans le véritable château de Chambord, hein, à quelques kilomètres de Blois. Alors, en fait, il a fallu quand même beaucoup de temps. Hein. La réalisatrice nous dit, on nous a confié toutes les clés du domaine, la forêt y compris. Chouette ça quand même, hein, parce que le château de Chambord est une merveille absolue. Il fait partie des châteaux de la Loire et c'est magnifique. Donc, c'est quand même déjà un cadre assez merveilleux. Voilà, cœur vaillant au pluriel.
Cœur vaillant, donc, sur Radio Entre-deux-Mers. On va continuer la conversation autour du cinéma avec un film d'Alejandro Loyrizza Grisi. Ça s'appelle Utama, la terre oubliée.
Oui, Utama, la terre oubliée, ça dure 1h26, c'est un drame uruguayen et bolivien. Parce que Alejandro, voilà, Loaiza Grisi est un réalisateur scénariste bolivien. Il a 36 ans. Il est également photographe il est photographe, il est directeur même de la photographie, voilà, ça va venir. Et c'est son premier long métrage. Je trouvais ça intéressant quand même. Et donc, il a eu Utama, la terre oubliée, a eu le grand prix de la compétition dramatique internationale à Sundance Film Festival en 2022. Alors, dans l'immensité des hauts plateaux boliviens, Virgino et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu'ici, rien n'a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions. Ni leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de Cleaver, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s'installer en ville avec le reste de la famille. Réticent à l'idée de quitter sa terre, Virginio se montre inflexible, à tel point que le jour où il tombe gravement malade, il décide de le cacher à sa compagne Sisa et à Cleaver. Alors on a des acteurs boliviens, on a José Calcina qui joue Virginio, on a Luisa Quill qui joue Sisa, et on a Santos Choque qui joue Cleaver. Ils sont tous boliviens. Et en fait, entre traditions, finalement, c'est une splendeur visuelle magnifique, ce film, hein, parce que voilà, entre tradition disparue et conflit de génération, c'est vraiment. C'est titré d'ailleurs une touchante chronique bolivienne sur la fin d'un monde, une ode à la transmission à couper le souffle. Et c'est une splendeur visuelle, voilà, c'est ce que je viens de dire, qui est absolument. Il avait réalisé un court métrage quand même en 2017. Là, il était vraiment très très jeune, qui s'appelle Laberunto et qui avait très bien fonctionné aussi là-bas. Utama, voilà. Eh oui, La Terre oubliée, très beau. Un très beau film. Si on aime ce genre d'histoire, c'est vraiment un très beau film.
Et avec de beaux décors également.
Ah oui, ah oui.
Et là, nous, on reste à l'étranger, dans des contrées lointaines. Et oui. On traverse le monde pour se retrouver avec Paolo Schoening d'Orgy à l'école du bout du monde.
Eh oui, alors là, c'est pareil, oui, on est très loin. Donc, l'école du bout du monde, 1h49, c'est une aventure, il y a du drame, il y a la famille, c'est une histoire de famille. C'est un film boutant. Hein. C'est-à-dire que le réalisateur Paolo Schoening d'Orgy est un réalisateur scénariste, photographe, producteur et photographe, directeur de photographie. Il a 38 ans, il est boutanais, d'origine indienne. Donc son film est Bhoutan. Alors le royaume, le Bhoutan, en fait, on rappelle, hein, c'est le royaume bouddhiste qui est situé dans l'est de la chaîne de l'Himalaya. Ça donne une petite idée quand même. Il a une nomination, l'école au bout du monde, Oscar Academy Awards, c'est l'Oscar du meilleur film étranger. Cette nomination, jolie nomination. C'est l'histoire d'un jeune instituteur du Bhoutan qui est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin. Ah ouais. Alors on a des acteurs bhoutans, hein, voilà, bhoutanais, on peut dire, du Bhoutan, bhoutanais. On a Sharab Dorji, on a Ugwen Norbu Landup, on a Kelden Lamo Gurung, et on a la bhoutanaise Pem Zam. Ils sont extraordinaires. Extraordinaire dans ce film, vraiment. Alors, il y a quelque chose m'a beaucoup plu, là, quand même. Il était écrit « Si l'époque vous agresse et vous incommode, inscrivez-vous à l'école du bout du monde. On y apprend même à écouter le silence. » Et ça, c'est Jérôme Garcin qui l'a écrit. C'est un journaliste, hein, il a 65 ans. C'est un écrivain français qui dirige le service culturel du Nouvel Obs. Observateur, qui produit et qui anime l'émission Le Masque et la Plume sur France Inter. Il est membre du comité de lecture de la Comédie Française. Et il est marié à Anne-Marie Philippe, qui est écrivaine, comédienne, et qui est la fille du regretté Gérard Philippe. Et c'est lui qui a écrit ça, là. On y apprend même à écouter le silence. C'est titré au Bhoutan, le pays du bonheur national brut. Très, très beau film. L'école du bout du monde. Si vous avez envie de voyager, et là, voilà.
Et là, c'est pareil. Les paysages sont au rendez-vous.
Ah,
et
complètement.
Maintenant, nous retrouvons Robert Engers avec le film The Northman.
Oui, alors, The Northman.
Alors
ouais,
là, ouais. Vers où il nous emmène, Robert?
Ah ben là, il nous emmène, alors ça dure 2h17 hein, quand même, il nous emmène dans l'action, dans l'historique, dans le thriller, c'est américain. Robert Eggers, réalisateur, scénariste, producteur américain, il a 38 ans, il a 11 ans de carrière et 7 tournages à son actif. C'est son troisième long métrage. Donc on lui doit en 2016 The Witch. Alors The Witch était avec Anya Taylor-Joy et Ralph Ineson. C'est un qui a eu alors vraiment là un prix, plein de nominations au Festival du film fantastique de Gérard May en 2016. Et c'était, il y avait aussi, il y avait le prix du meilleur premier film, le prix du meilleur premier scénario, etc. Donc c'est quelqu'un qui connaît son boulot, comme on dit. Alors The Northman est interdit au moins de 12 ans, avec avertissement, d'accord? Ça, c'est dit. On en tient compte, hein, mes chéris, surtout on tient compte beaucoup de ça. Avec avertissement, pardon. C'est quand même, ça veut dire que, bon, hein, moins de 12 ans, absolument. Voilà. Alors, ça se passe au Xe siècle en Islande. C'est la vengeance perpétrée par des Vikings. Le prince Hamlet, c'est pas Hamlet H-A-M, non, c'est Hamlet A-M-L-E-T-H, c'est pas du tout le même. Hein. C'est pas le prince Hamlet qu'on connaît de Shakespeare. ça, c'en est un autre. Et c'est, bah oui, c'est la vengeance des Vikings, c'est un Viking. Le prince, il est sur le point de devenir un homme lorsque son père est brutalement assassiné par son oncle qui kidnappe la mère du garçon. Deux décennies plus tard, Hamlet est maintenant un Viking qui attaque les villages slaves. Il rencontre une voyante qui lui rappelle son vœu, sauver sa mère, tuer son oncle et venger son père. Alors là, c'est pareil, on a un casting quand même pas mal du tout. Hein. On a Alexander Skarsgård qui joue Hamlet. Ouh là là, mesdemoiselles, mes chéris, mesdames. Oh, qu'il est mignon cet Alexander, je vous assure. Il y a Nicole Kidman pour les messieurs, n'est-ce pas? Il y a Annie Taylor-Joy, il y a Claes Bang, il y a Ethan Hawke. Oh, on l'aime beaucoup, Ethan Hawke. C'est un grand comédien, c'est pareil, beaucoup de talent. On a Björk. On se souvient de Björk qui avait tourné avec Catherine Deneuve. À l'époque, le film, je ne sais plus le titre d'ailleurs, mais elle avait été assez extraordinaire. Catherine Deneuve en avait un souvenir incroyable. Elle en avait parlé dans une interview de Björk, qui est une chanteuse au départ et actrice maintenant. On a Willem Dafoe. Oh, bah Willem Dafoe. Qu'est-ce qu'on peut en dire, hein, sinon qu'il a un talent formidable également. C'est quand même très, très agréable d'avoir un casting aussi sympa. Alors, c'est titré « Devenez maître de votre destin ». Mais oui. Alors, en fait, il avait quand même aussi réalisé en 2019, d'ailleurs, mais on en a parlé de celui-là. Tu t'en souviens, Damien, de « Lighthouse ». Tu sais l'histoire d'un phare sur une île mystérieuse avec deux gardiens.
Je me rappelle bien, oui. Oui, tout à fait.
Ça se passe en 1890 et surtout, on avait Robert Pattinson, justement, le fameux héros de Twilight, et qui jouait un rôle tout à fait différent là avec Willem Dafoe. C'était les deux gardiens du phare. C'était interdit au moins de 12 ans également. Très, très chouette. 2 prix et 10 nominations quand même à Deauville, à la quinzaine de réalisateurs. Donc celui-là aussi était à retenir. Alors pour réaliser ce film, c'est-à-dire The Northman, eh bien le réalisateur nous dit qu'il a travaillé avec des archéologues et des historiens pour tenter de recréer la réalité physique d'alors dans ses moindres détails. Nous avons cherché, dit-il, à saisir l'âme et la psyché des Vikings, sans les juger. Il fallait découvrir leurs croyances, leurs mythes et leurs rituels. C'est pas rien les Vikings quand même, hein. C'est très compliqué la vie des Vikings avec tout ce qui va avec. Hein. Ah oui, je pense que les historiens là et les archéologues ont pu certainement donner un sérieux coup de main aux réalisateurs. Alors le budget du film, allez, on va parler un peu de sous, ça, hein. Il y a longtemps qu'on n'en a pas parlé. 60 millions de dollars, c'est le plus cher de Robert Eggers d'ailleurs. The Witch avait coûté 4 millions et The Lighthouse 11 millions. Ah ben voilà, au fur et à mesure, il a besoin d'argent. Bah, 60 millions. Alors, en fait, il nous dit « Nous voulions qu'Alexandre Skarsgård soit plus épais, moins sec que dans Tarzan. » C'est lui le Tarzan, hein, on se souvient de lui, on en avait parlé aussi à Radio Entre-deux-Mers. Et il voulait qu'il ait de plus grosses épaules aussi. Aïe, 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 Hamlet est mi-loup, mi-ours. Il fallait que le héros bouge avec souplesse quand il manie la hache et l'épée, mais qu'il ait également une taille et un volume imposants. Eh bien, je n'aurais pas voulu être à la place d'Alexandre Skarsgård quand on lui a dit qu'il allait être mi-loup, mi-ours et qu'il fallait qu'il devienne extrêmement souple en tenant sa hache et son épée, qui était très lourde à l'époque, hein, les épées, on rappelle. C'était pas n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est un film qui est attendu par les amateurs, par ceux qui aiment, ces histoires et qui... Il y a toujours énormément de monde, hein, de toute façon, qui va voir ce genre de film. 2h17. Donc c'est quand même... Ah oui, dans le scénario aussi, il a aidé Robert Eggers, le scénariste John, qui est un... Il s'appelle John, comme ça, et c'est un romancier, c'est un poète islandais. Donc il a dû donner un sérieux coup de main pour l'histoire, justement. Pour le côté historique, en fait. Pour le côté vrai, si on peut dire. 10e siècle en Islande. Allons-y, allons-y, de l'aventure, du mouvement. Et quelques sentiments quand même aussi. Hein. Il y a des petites femmes quand même dans le film, voilà, qui ne sont pas très faciles, mais il y en a une qui lui plaît bien au héros d'ailleurs, Hamlet. Ouais. Voilà, il faut aller voir ça.
Northman, donc.
L'homme du Nord.
L'homme du Nord. Et maintenant, on va retrouver une réalisation de Justin Kurzel. Et ça s'appelle Nitram.
Ah oui, Nitram. C'est un drame, un thriller australien. Alors, il y a quand même un prix et 12 nominations au Festival de Cannes 2021. Alors, il y a le prix d'interprétation masculine pour Caleb Landry-Jones. Je le reciterai tout à l'heure. Donc, c'est interdit au moins de 12 ans également. Bah oui, j'ai sélectionné aussi. Bah oui, voilà. Il n'y a pas d'avertissement, mais c'est interdit au moins de 12 ans quand même. Alors, Justin Kurzel, oui, réalisateur, producteur, créateur australien. Il a 47 ans, 16 ans de carrière et 11 tournages à son actif. Alors bon, moi j'ai retenu quand même en 2011 le film Les Crimes de Snowton, qui a eu 3 prix et 14 nominations au Festival international du film de Marrakech. Il avait très bien marché. Et puis en 2015, Macbeth. Ah bah oui, le Macbeth de Justin Kurzel, pas mal du tout, avec Michael Fassbinder, qui jouait Macbeth d'ailleurs. Il y avait Marion Cotillard, qui jouait Lady Macbeth. Il y a eu 9 nominations au Festival de Cannes 2015. Ce Macbeth-là, mes chéris, franchement, c'est pas mal de l'avoir dans sa vidéothèque. En tout cas, c'est pas honteux. Voilà. N'est-ce pas? Et là, il s'agit d'une toute autre histoire. Ça se passe donc en Australie, dans le milieu des années 90. Nitram est chez ses parents, où le temps s'écoule entre solitude et frustration. Alors qu'il propose ses services comme jardinier, il rencontre Hélène, une héritière marginale qui vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils se construisent une vie à part. Quand Hélène disparaît tragiquement, la colère et la solitude de Nitram ressurgissent. Commence alors une longue descente qui va le mener au pire. Oui, j'ai bien dit, un drame thriller. Donc, Caleb Landry-Jones, que j'ai cité, qui a reçu le prix d'interprétation masculine en 2021 au Festival de Cannes, il joue Nitram. C'est un acteur américain excellent. On a Essie Davis aussi, australienne, qui joue Hélène. On a Anthony LaPaglia, qui joue le père, et qui est un acteur australien qu'on connaît si on regarde les séries policières à la télévision. Il a été longtemps dans une série où il était le chef, d'ailleurs. Alors, je ne sais plus ce que c'était, mais quand on le voit, on sait qu'on l'a vu de toute façon. C'est clair, là. Hein. Lui, vraiment, il a un visage très connu. Il y a Judy Davis aussi qui joue la mère et qui est une actrice américaine. Alors, c'est une tragique histoire. Hein. C'est d'après, d'ailleurs, une histoire vraie qui a bouleversé l'Australie. Alors, c'est tragique, c'est la tuerie de masse qui a traumatisé justement l'Australie. C'est l'une des tueries les plus meurtrières de l'histoire de ce pays, de l'Australie. La tuerie de Port Arthur de 1996. Alors le héros, enfin si on peut appeler ça un héros, mais bon, c'était un enfant peu entouré, il était la cible régulière d'intimidation de la part des autres. Il était adepte des pétards et des feux d'artifice quand il était enfant. Alors il s'appelle Martin Bryant. Et il a rencontré à l'âge de 19 ans Hélène Harvey, qui recherche un professionnel pour s'occuper de son terrain, un bon jardinier. Voilà. Elle a 29 ans de plus que lui. Ils nouent avec cette riche héritière un lien affectif particulier. Ils emménagent ensemble dans son grand manoir avant d'investir un corps de ferme en 1993. Ils ont un accident de voiture. Hélène décède. Lui survit après plusieurs mois passés à l'hôpital. Entre-temps, son père se suicide. Et le 28 avril 1996, le jeune homme de 28 ans commet l'irréparable. Il tue les propriétaires d'une maison d'hôte avant d'arriver à Port Arthur, qui est un village historique et un ancien pénitentiaire. Il s'installe dans un café, il sort des fusils automatiques de son sac, il tire en visant ses victimes. En fuyant, il tire sur les personnes qu'il croise, dans un autobus, à un péage, partout dans la rue, notamment une femme et ses deux enfants. Il vole une voiture et il retourne s'enfermer dans la maison d'hôte des premiers meurtres avec des otages. La police tente de négocier pendant des heures, il met le feu à la demeure, il tente de fuir brûlé par les flammes, il est capturé par la police et il est envoyé à l'hôpital pour être soigné. Bilan, 35 morts, 23 blessés. Et des victimes, les victimes étaient au point de vue âge, ça s'étalait de 3 ans à 72 ans. Il a été condamné à 35 ans de prison à perpétuité et 1035 ans sans liberté conditionnelle. Il est toujours emprisonné au pénitencier de Risdon Prison, qui est situé à Risdon Valley, justement, qui est près de Hobart, la capitale de l'État insulaire australien de Tasmanie. Ça se trouve au large de la côte sud de l'Australie, en fait, la Tasmanie. Voilà cette histoire. Donc c'est titré génial, une véritable performance d'acteur. Caleb Landry-Jones est phénoménal, c'est une révélation totale. Voilà, Caleb, qui joue Nitram. Voilà cette histoire incroyable, qui est très bien filmée. C'est vraiment, si vous vous intéressez à ce genre de faits divers, mes petits choux, ce film est pour vous absolument. Voilà. Nitram
de Justin Kolzel. Et pour terminer la sélection de ce matin, c'est un film de Mohamed Nadif qui s'appelle Les femmes du pavillon.
Le pavillon J. Pourquoi c'est un pavillon J? Il y a une lettre, tu sais, voilà, oui, c'est comme ça.
C'était pas mentionné sur mon petit papier.
Donc, pas mentionné.
Je ne pouvais pas le savoir. Alors, les femmes du pavillon J.
Donc, c'est un drame qui dure 1h37. Et oui, de Mohamed Nadif, c'est son deuxième long métrage. Réalisateur, acteur, co-producteur, il est scénariste, il est marocain. Il a 17 ans de carrière et il a 6 tournages à son actif. Il a une nomination d'ailleurs aussi. Alors, il a réalisé 3 courts-métrages en 2005, 2007, 2009. Il était acteur d'ailleurs, dans de nombreux films. Et ça a très bien marché pour lui. Voilà. Et donc là, il en est à son deuxième long-métrage. Il a été en fait le réalisateur comédien de théâtre, il a été metteur en scène de théâtre. Et puis ensuite, il s'est lancé dans le cinéma, il a bien fait, il fait des choses très chouettes. En tout cas, le film est vraiment très chouette. En 2012, il a réalisé Andalousie, mon amour. C'était une comédie sur le thème de l'émigration. Il y avait Youssef Britel et Zakaria Atifi dans les rôles principaux. Une nomination, séance coup de cœur au Festival Interfilm de Marrakech en 2011. Alors, dans ce film, en fait, dont on va parler, il y a trois patientes qui s'appellent Amal, Ibtissam et Rim, les trois femmes. Et il y a une infirmière d'un pavillon psychiatrique de Casablanca qui confrontent leurs souffrances et qui développent une amitié forte, échappant à elles-mêmes en de salutaires virées nocturnes qui les ramènent peu à peu à la vie. Une amitié forte se tisse entre ces femmes qui vont tout faire pour sortir de leur enfermement personnel et qui se viennent mutuellement en aide par tous les moyens possibles. Ce fameux pavillon J, en fait, c'est un pavillon psychiatrique. Alors, on a dans les rôles Asma El Adremi, dans les rôles principaux, Jalila Talemsi, Imane El Nechafri, dans le rôle de ces trois patientes-là, Amal, Ibtissam et Rim. Donc, c'est. En fait, le réalisateur Mohamed Nadif a voulu, dans ce film, Les femmes du pavillon J, donner la parole à trois femmes. Et ce sont leurs luttes qu'il voulait montrer, sans concession. Voilà, au plus près de leur quotidien, avec humanité et espoir, avec émotion, afin que toutes les femmes s'y reconnaissent et que tous les hommes prennent la mesure de la responsabilité commune. C'est ça. Parce que, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que les femmes traquées dans leur vie par le regard de tous, qui sont sommées de se soumettre à des formatages contre nature sous le joug des lois familiales rétrogrades, elles ont atteint donc, à cause de tout ça, un point de rupture. Elles sont condamnées à l'internement. Ça se passe au Maroc. Les femmes du pavillon J. Voilà.
Très bien. Voilà donc ce dernier film proposé aujourd'hui par Anne.
Voilà. Ce que je voulais signaler aussi, que le Festival de Cannes, pour ceux qui sont fous de cinéma et du festival. Le festival de Cannes 2022 aura lieu, bientôt on en reparlera, du mardi 17 mai au samedi 28 mai. C'est le 75e, c'est la 75e édition. Voilà. Et donc, on verra tous les acteurs et toutes les actrices qu'on attend. Voilà, on verra tout ça la prochaine fois. Ce sera en fait la prochaine fois, en réalité, bon, le festival aura commencé, puisqu'il commence le 17 mai. Et la prochaine fois qu'on se revoit, c'est le 18 mai, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, Damien? Voilà. Donc, on peut déjà dire quand même qu'il y aura Marion Cotillard, il y aura Tom Cruise. Tom Cruise, ça fait 30 ans qu'il n'est pas venu, qu'il est absent du festival, hein, Tom Cruise. D'accord. Il y a Isabelle Adjani, Virginie Efira, etc., Pierre Ninet, enfin, tous ceux qui viendront. Alors, il y a ceux qui présentent un film. Et puis, il y a ceux qui viennent parce qu'ils sont là, parce qu'on a besoin d'eux. Léa Drucker, il y a Kristen Stewart, il y a Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos aussi, Jean Dujardin, Tom Hanks, Robert Pattinson, Kate Blanchett et Vincent Lacoste qu'on attend là-bas, justement. On en reparlera à ce moment-là. Voilà. Quand il aura déjà commencé. Ce festival.
Très bien, et ça sera bientôt donc sur Radio Entre-deux-Mers. Une bonne semaine à toi, Anne, et à très vite pour une nouvelle conversation autour du cinéma.
Bien sûr, une bonne semaine à toi aussi, Damien, merci. Hein. Merci pour ton aide et tout et tout et tout. Et puis, mes chéris, essayez vous aussi de passer une bonne semaine. Soyez heureux le plus possible, hein. Carpe diem, profitez de la journée. Oh là là, je ne cesserai jamais de vous le dire. Profitez du matin au soir. Voilà, ça c'est déjà important. Et puis surtout, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.